Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis, 19h à 20h, sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net partout sur la planète. Alors ce soir, Money Time saison 5, épisode 35, avec autour de la table nos chroniqueurs pour nous accompagner. Et on commence avec toi, mon Charles, comment que tu vas bien?
Bah salut Matt, salut à tous, ça va très bien, ravi d'être avec vous encore ce soir. J'en profite pour faire un gros big up à Sixtine, une amie fan de foot que j'attends en tournant pour réaliser enfin devant moi un tour du monde réussi.
Eh bah on l'embrasse, et en face de moi c'est toi mon Jérém, est-ce que ça va bien ce soir?
Ça va, tranquillement, et je te souhaite une bonne émission à toutes et à tous, et pour finir bien la saison comme il faut.
Et à côté de toi en guest, un pote de Charles, c'est Pierre-Olivier.
Bonsoir, merci de votre invitation.
Eh bien, on est content de t'accueillir, Pierre-Olivier. Puis, j'oublie pas Jean-Marc en bout de table ce soir. Salut Jean-Marc.
Salut, salut, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et j'en profite pour souhaiter, avec un petit peu de retard, un bon anniversaire à Chris et Vince.
Et on les embrasse également. C'était la semaine des anniversaires. Alors, au programme de cette émission, une page football. On revient sur la Ligue des Nations. Les Cadors en Europe en préparation pour la Coupe du Monde. Et puis derrière, on développera tout le reste de l'actualité. Mais pour l'instant, il est temps de parler football avec le Prune Football Club.
Money Time. Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club.
Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on parle de cette Ligue des Nations qui est revenue il y a tout juste 10 jours et ce soir déjà le quatrième match en préparation pour la Coupe du Monde, ça tombait à point nommé. Les Français malheureusement démarrent mal, on se penche sur leur cas avec cette première défaite à domicile au Stade de France face au Danemark 2-1.
C'est ça, la France qui démarque très mal cette Ligue des Nations. Pourtant ils sont tenants du titre, mais aussi il faudrait que le groupe est assez homogène et les qualités des différents pays sont aussi là. Mais les Français, c'est vrai qu'ont très mal démarré cette rencontre en encaissant un but d'entrée de jeu. Après il y a eu encore le miracle Benzema qui a fait un chef-d'œuvre dans la défense des Autrichiens pour marquer, pour égaliser. Mais finalement en fin de match, les Autrichiens ont à nouveau marqué pour enfin les Danois. On a à nouveau marqué par Cornelius une deuxième fois, et ce qui a fait que la France a perdu. Mais mis à part cette défaite, on voit surtout qu'au niveau du fond de jeu, c'est pas trop ça, et qu'on voit surtout que les organismes sont un peu fatigués de cette saison qui a duré longtemps pour certains joueurs. Et du coup, Deschamps a eu l'idée de rechanger tout l'effectif pour le deuxième match du coup, contre la Croatie, et ça n'a pas été non plus une franche réussite après avec un match nul. Et qui est où c'est Rabiot qui a quand même lancé l'affaire, mais où la France s'est fait rabattue par un penalty un petit peu litigieux qui était utilisé, où la VAR a dû être mise deux fois à contribution pour valider ce penalty signé Kramaric.
Ouais, alors tu l'as dit, ce deuxième match a surtout servi à une revue d'effectifs. Est-ce que c'est pas là le but finalement de ces matchs? Essayer de voir un maximum de joueurs avant la Coupe du Monde pour voir quelle est la bonne formule.
Pour moi je me dis ça, parce que vu que comme avant la Coupe du Monde en novembre, il n'y aura que très peu de matchs internationaux qui vont se jouer avant. Du coup pour moi cet été c'est l'élimination, c'est fait pour préparer, c'est plus pour des matchs de préparation style amicaux pour... voir les joueurs qui sont là, valider les acquis et voir les nouveaux qui vont venir, style comme Diaby, Nkunku et le nouveau Konaté qui a fait quand même une bonne impression sur son match qui est arrivé et peut-être confirmé au niveau de gardien que ce soit Lloris ou Maignan qui sera titulaire en Coupe du Monde.
Ouais, d'accord avec toi, les deux qui arrivent de Bundesliga, je ne sais pas si tu es de mon avis Charles, mais Diaby et Nkunku, très bien lors de ces trois premières sorties.
Oui, bien sûr, hein, Nkunku qui réalise de très bonnes performances, on l'a vu, il a fait une saison excellente avec Leipzig, ça fait 2-3 ans qu'il est vraiment au top, et là, il confirme finalement le niveau qu'il démontre à Leipzig, et on peut être vraiment très heureux, parce que, par exemple, quand on voit surtout le niveau de Griezmann, qui malheureusement, actuellement, est vraiment, on va dire, on ne peut pas se cacher, à la ramasse, hein, c'est plus du tout le niveau qu'il avait, il y a quelques années, avant son passage au FC Barcelone notamment, bah ça fait du bien de voir un vent de fraîcheur et Moussa Diaby et Christopher Nkunku sont vraiment de très bons joueurs qui apportent de la qualité technique notamment et de la vivacité avec Moussa Diaby qui va très très vite et forcément ça aide sur les côtés et même pour percer les défenses en profondeur. Donc on a vraiment une magnifique finalement attaque. Malheureusement, le côté de la défense, c'est aujourd'hui ce qui pêche et c'est ce qui fait qu'en fait on prend des buts un peu parfois casquette ou même sur face au premier match face au Danemark, c'est des erreurs de placement défensif où finalement bah, on couvre pas assez, du moins ou soit on remet le joueur en attaque danois qui était Andreas Cornelius, ancien attaquant bordelais, hein, ça fera plaisir à nos amis bordelais. C'est qui vient marquer ses deux buts un peu comme ça sur un Théo Hernandez qui couvre à chaque fois en profondeur. Donc le problème aujourd'hui, c'est pas forcément l'attaque. L'attaque, on l'a, on marquera des buts, ça sans souci, même en faisant des revues d'effectifs, en intégrant des joueurs qu'on ne voyait pas forcément avant. Même Ben Yedder, on le voit pas souvent jouer. Il est souvent sélectionné, mais on le voit pas souvent jouer. Donc c'est même Rabiot qui joue un peu à la Matuidi sur ce milieu gauche. C'est voilà, c'est malheureusement à l'heure actuelle, ça va être plutôt défensivement, va falloir se concentrer. Et là-dessus, que Didier Deschamps va aussi devoir travailler. Parce qu'en attaque, je pense pas que ça posera de problème sur les matchs à venir.
Tout à fait. Et je pense que aussi bah, le fait que c'est avoir perdu Varane, tout ça, et que les latéraux ont du mal à se repositionner par rapport à la charnière, une charnière qui est défensive, qui est inconstante et où ça change à tous les matchs. Bah. Du coup, comme on dit que les arrières arrivent à se caler, un coup ils vont jouer à trois défenseurs. Ils repassent à 4, c'est un peu compliqué pour eux de se jauger.
Bah, je pense que Didier Deschamps se cherche là-dessus aussi.
Ouais.
Malgré ces maigres performances, est-ce que certains joueurs ont marqué des points en vue, d'autres joueurs ont marqué des points en vue du voyage au Qatar?
Tchouaméni notamment. Tchouaméni, je pense qu'il a fait quand même plutôt...
On n'avait pas trop de doutes que par rapport à la titularisation, enfin la qualification de Tchouaméni au Mondial.
Et je pense aussi Maignan qui a assuré sa place, je pense, en titulaire de Ligue 1, en titulaire pour l'équipe de France à la place de Lloris qui se fait vieillissant. Et qui a du mal à être dans ses matchs.
Rabiot en délicatesse peut-être avec Deschamps marque des points.
Oui, Didier Deschamps qui était en délicatesse. On sait qu'il n'était pas sélectionné, il avait des problèmes de comportement. Là, l'attitude est bien meilleure. On sent qu'il est motivé. Il marque ce but décisif notamment face à la Croatie. Donc Rabiot, lui, c'est sûr, marque des points pour l'instant sur ce week-end, enfin, sur cette semaine de compétition internationale.
Jean-Marc, quelque chose à ajouter sur le jeu des Bleus?
Non, je pense qu'ils sont un peu trop fatigués pour que ça soit intéressant et perso, je ne regarderai pas le match ce soir.
Très bien, on passe au groupe B et on parle du finaliste de la dernière épreuve. Donc l'Espagne et du Portugal qui pour l'instant caracolent en tête hein, dans ce groupe, après s'être neutralisé.
C'est ça, voilà. Donc on a le droit à l'Espagne et Portugal qui sont largement dominateurs. Hein. On a eu le droit notamment à ce match entre l'Espagne et Portugal, le premier, un partout avec des buts de Morata et de Horta en fin de match pour le Portugal. Mais on a deux équipes qui finalement sont assez du même niveau, avec peut-être l'Espagne un peu plus collective, avec un jeu un peu plus sympathique à regarder.
Et plus jeune aussi, effectif.
Et plus jeune aussi, forcément effectif. Hein. Cristiano Ronaldo, on va dire, majeur l'âge de l'effectif portugais un peu vers le haut. Mais en tout cas, c'est sûr que voilà, on a les deux équipes qui, eux, font le travail et qui sont à l'heure actuelle au-dessus de la République tchèque et de la Suisse.
Même sur la budget, c'est un peu l'équipe piège de ce groupe-là qui a une bonne stature au niveau de l'effectif. Ils jouent bien leur coup et ils sont très solides en défense et en attaque.
Même aussi la Suisse, hein, qui ont battu le Portugal notamment au dernier match. Mais c'est sûr que dans l'idée, là il restera deux matchs. Il y aura quand même un dernier duel Portugal-Espagne pour la sixième journée. Ça va être intéressant à suivre. Mais c'est vrai que dans l'idée, ces matchs-là, ne reflète pas vraiment ce qui va se passer à la Coupe du Monde.
Ouais, celui-là, il sera en septembre quand même et en préparation de la Coupe du Monde, donc il va être intéressant, ce Espagne-Portugal.
Ça sera les 24 et 27 septembre.
Ouais. Dans le groupe C,
De l'Italie, la Hongrie, l'Allemagne et l'Angleterre.
Le groupe de la mort, ouais, c'est les Hongrois qui font bonne figure. Hein,
Et puis, dans un groupe où il y avait de l'adversité, on voit que dans le reste des matchs, c'est un peu décevant. Avec seulement une victoire de la Hongrie 1-0 contre l'Angleterre, des matchs nuls Italie-Allemagne, Allemagne-Angleterre match nul, l'Italie qui gagne contre la Hongrie péniblement contre 2-1. Et dernière journée, c'est encore des matchs nuls, Hongrie-Allemagne un partout et Angleterre-Italie 0-0 qui se neutralise, c'est un peu tristounet.
On va pas se répéter, mais je pense que si la fatigue joue énormément, beaucoup de revues d'effectifs, on a vu ce fameux joueur italien qui a joué contre la Hongrie mais qui n'a jamais joué en Serie A, c'est un joueur de la Napoli prêté en deuxième division, enfin en Serie B et en Serie C, donc on voit qu'il y a vraiment une ouverture collective, une ouverture en termes de nouveaux joueurs qui est assez grande, donc ce qui fait que forcément, ça reste des matchs qui sont intéressants à suivre face à des grandes nations, mais il n'y a pas ce petit truc de compétitivité.
C'est pas le bon moment de l'année finalement pour les voir. Non. C'est un peu dommage.
C'est dommage, mais comme c'est on l'a vu. L'argent, entre guillemets, qui a fait que la Ligue des Nations existe et qu'aujourd'hui on est obligé de.
Mais attention, cette compétition, elle est importante pour les petites nations pouvoir progresser et.
Ah ça c'est sûr, ça fait progresser parce qu'avant il y avait des matchs amicaux, là c'est des matchs en jeu entre guillemets. Donc forcément ça rajoute cet esprit.
On a vu que la Hongrie partait de la Ligue C et aujourd'hui est en Ligue A. Ça montre un petit peu l'intérêt des petites nations pour cette compétition. Enfin, dans le groupe D, le groupe des Bataves et des Belges, il faudra là encore attendre septembre pour savoir qui ira jouer le Final Four.
Même si pour l'instant les Pays-Bas se dégagent grâce à leur armada offensive, même si les Belges sont réveillés au deuxième match, ça reste assez serré dans ce groupe-là, où la Pologne reste aussi à l'affût qui est ex-aequo avec la Belgique. Et pour l'instant c'est le Pays de Galles qui ferme la marche, seulement un petit point lors de trois journées. C'est un peu triste pour les Gallois qui sont qualifiés en Coupe du Monde.
La qualification pourra sans doute se jouer au dernier match entre les Pays-Bas et la Belgique, même si on a vu les Pays-Bas notamment dominateurs sur le premier match face aux Belges avec une victoire 4-1 en terre de la Belgique, donc avec seulement le but de Batshuayi à la toute fin de match. Donc c'est vraiment les Pays-Bas sont part favoris de ce groupe, en tout cas pour le Final Four.
Et attention au piège danois à la Coupe du Monde, on voit bien que cette équipe sera toujours là pour nous embêter.
Mais elle progresse. Le Danemark progresse très bien. On l'a vu au dernier Euro. Ils font demi-finale de l'Euro. Donc c'est vraiment.
On sait qu'ils ont un supplément d'âme aussi avec leur capitaine Eriksen.
Beaucoup de bien. Il y a de très très bons joueurs. On parle de Kasper Schmeichel dans les buts qui est vraiment un gardien d'expérience et très fort. Titré avec Leicester notamment il y a 5 ans. Il y a vraiment beaucoup de qualités, donc faut surtout pas les sous-estimer. Les Danois, ce ne sont plus les Danois finalement de 2018. Faut pas se tromper. On parle de Pierre-Emile Højbjerg qui fait d'excellents matchs, qui est vraiment la pierre angulaire du jeu de Tottenham.
Il y a Poulsen.
Poulsen aussi avec Leipzig qui fait encore des bons, très, très bons matchs. Ils ont des latéraux de qualité avec Joachim Mayele notamment, qui joue à l'Atalanta Bergame. Et puis en défense, c'est du solide entre Vestergaard, Joachim Andersen ou Victor Nelson. C'est tous des gros gaillards, des solides garçons. Donc faudra faire attention aux Danois à la Coupe du Monde.
On fera attention aussi aux Pays-Bas, c'est quand même une équipe qui montre de belles choses depuis 2-3 ans. Donc ça sera les équipes à surveiller. Est-ce qu'on a des infos transfert
juste ce matin, l'officialisation du transfert de Haaland à City. Les chiffres n'ont pas été dévoilés.
Pour 5 ans.
Pour 5 ans, mais c'est City a officialisé l'arrivée d'Haaland à City.
Il va faire beaucoup de bien à l'attaque Citizen. On sait qu'à l'heure actuelle que City ne jouait quasiment 109, hormis Gabriel Jesus qui parfois s'occupait de ça, jouait un peu ça. Mais malheureusement, il manquait ce petit truc qui faisait passer finalement de buts à 4 buts parce que des occasions, ils en avaient et ils n'arrivaient pas à les concrétiser. Erling Haaland, c'est un phénomène. C'est dans le niveau Mbappé, tout ça. Donc forcément, il va faire beaucoup de bien. Et en tout cas, pour Guardiola, là, ça va être l'année prochaine. Pour gagner des champions, ça va être l'objectif avec ce supplément de Erling Haaland.
Alors, c'est pas tombé aujourd'hui, mais on n'en a pas encore parlé. C'était quand même la signature de Tchouaméni au Real.
Tchouaméni au Real, évidemment. Ça, c'est une très belle affaire pour le
Camavinga Tchouaméni, c'est l'avenir du milieu de terrain merengue.
Et français à la fois.
Et français. Ouais.
Donc c'est,
ils vont progresser ensemble dans ce club.
Surtout avec en plus l'apport de Benzema, tout là qui va,
ouais, être, ça va être...
Quid de Lewandowski, on en parle au Parc des Princes.
Voilà, ouais. On ne sait toujours pas comment, de comment ça se positionne, mais le PSG aurait un avantage financier que par rapport au Barcelone, par rapport à ça. Du coup,
c'est pas un peu too much là pour Paris encore une fois
Dans l'idée où ça serait peut-être Neymar qui partirait, si ce serait pour remettre Lewandowski à la place, pourquoi pas, c'est pas Neymar, le même poste, c'est sûr.
Neymar il part pas si il a pas le même contrat dans un autre club. Hein.
Ça va être très compliqué, mais ouais. C'est pour ça qu'on voit, surtout qu'il a son contrat jusqu'en 2024. Donc Neymar ne part pas libre, il a encore 2 ans de contrat.
Personne ne part de Paris, hein, tu le sais.
Non, ça c'est sûr. Donc,
parce que pour l'instant, à Paris, il y a beaucoup de joueurs qui sont mis sur,
ouais, il faudrait déjà dégraisser. Quoi.
Il faudrait déjà dégraisser.
Parce que le problème, c'est que c'est leur salaire tellement imposant qu'aucun club pourra surenchérir et leur donner leur salaire, alors que ces joueurs-là ont régressé depuis de plusieurs années. On pense à Mauro Icardi. Lewin Kurzawa qui gagne 5 millions par an, à rien faire, c'est...
Ouais, on va pas faire la liste, mais il y en a beaucoup. Côté transfert, sur les bords de l'Erdre, on a des infos ou pas?
Ne croyons pas trop à l'arrivée d'un certain Milik sur les bords de l'Erdre. Hein. Juste un fantasme de ce cher président Valdemar Quitta. Et je lui conseillerais plus de miser sur un Geoffrey Durban, le meilleur buteur de National, ou voir un Brendan Chardonnay, le super défenseur de Brest. Ça serait des choix intéressants, mais pour l'instant, aucune info d'arrivée.
Bah, pour l'instant, il y avait le fameux Youssouf M'Tchangama, meilleur joueur de Ligue 2, parmi les meilleurs joueurs de Ligue 2 l'année dernière, 9 buts, 15 passes décisives, qui serait pour l'instant en cours de négociation. Ça devrait peut-être se faire. Bon, il n'y a pas encore de finalisation, mais on espère, parce que c'est vraiment un excellent joueur et viendrait au milieu de terrain avoir un assist technique assez intéressante. Il y avait aussi forcément en attaque pour remplacer Colomani, le buteur coréen de Bordeaux, Wang.
Alors là, ouais. Franchement, je le prends pas.
Moi, je le prends. Je pense que c'est un joueur qui se bat. C'est un joueur qui a quand même marqué 11 buts avec Bordeaux.
Ça a marché une fois avec Palois, mais voilà. C'est tout.
D'accord. Moi, je serais plutôt.
Franchement, moi, je le prends pas.
Moi, je le prends. Voilà. On verra bien.
On verra bien.
Ouais, non, pas Son. Hein, on parle de.
Oui, non. Hein. Son est pourtant pousse vers un départ. Donc le camp Son.
C'est trop cher.
Bon, on joue à la Ligue Europa quand même l'année prochaine.
Mais sinon, après, en France, l'officialisation du retour de Axel Lacazette à Lyon.
Oui, ça aussi.
C'est officiel, c'est signé. C'est.
Voilà.
Bon, big up au fait aux U19 de Nantes, hein, oui, qui joueront la Youth League.
Voilà. C'est ce que j'allais dire. Déjà, ils joueront la Youth League. Ils sont champions de France. Donc peut-être qu'il y a des joueurs qui vont monter.
Bah, on pense notamment à Mohamed Hachi, par exemple, milieu de terrain. Qui jouait pas avec les U19, lui, au fameux tournoi qu'ils ont gagné. Là, le tournoi U19, les Français l'ont encore gagné la 11e fois dans l'histoire.
C'est un tournoi de Toulon, mais il s'appelle plus comme ça.
Ouais. C'est ça. Mais donc, il y avait notamment Mohamed Hachi à ce niveau-là. Donc, on a vraiment des joueurs de qualité au centre de formation. On voit que les jeunes montent. Hein. On pense notamment à Quentin Merlin, qui est le meilleur exemple à l'heure actuelle. Donc, on verra bien ce qui se passe du côté de Nantes. Mais c'est sûr que faire confiance à la formation, ça peut être aussi une très bonne idée.
Youth League, c'est aussi des beaux matchs européens. On rappelle, hein, le plateau est composé des mêmes équipes que les grands, hein, plus tous les champions nationaux. Donc,
on peut rencontrer des Real
Madrid. Bien sûr, ils seront là. Ils seront tous là, et ça va faire des
Chelsea, le Barcelone.
Possiblement que tous les matchs n'auront pas lieu à Marcel Sepin. Il y en aura peut-être de délocalisés à la Beaujoire. Enfin.
Bon.
C'est à voir, puisque vous avez tous lu que l'UEFA a été magique. Ouais. Encore une fois, bravo Monsieur Seferin et ses boys, qui pour l'instant a décidé que la Beaujoire n'était pas apte à recevoir des matchs de Ligue Europa. C'est en stand-by, c'est en étude. C'est scandaleux.
L'histoire de la taille des sièges.
C'est une histoire de sécurité et d'accueil des, notamment des supporters.
C'est pour ça qu'on n'avait pas eu l'Euro 2016.
Mais notamment, des travaux sont faits cet été. Il y a des chances que.
Je trouve ça ultra excessif.
Oui, c'est excessif.
Ça met extrêmement en colère. Je vous rappelle que le stade de la Beaujoire va recevoir et les Jeux Olympiques 2024 et la Coupe du Monde de rugby.
Bien sûr.
Donc un moment, il faudrait arrêter de faire n'importe quoi, messieurs Seferin et autres guignols de l'UEFA.
Surtout quand on voit d'autres stades un peu plus dans l'Est de l'Europe.
Bien sûr.
C'est des stades complètement...
Juste parce qu'ils n'ont pas eu leur petite mallette. C'est ridicule.
C'est ça.
Bon, on a été complet sur le foot. On va parler de hand et du H tout de suite dans H-Time.
Hashtag Money Time.
Toute l'actualité du HBC Nantes par notre bande d'experts. Débrief, info, interview.
Hashtag
Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Alors, on avait laissé le HBC Nantes après une superbe victoire 39-28 sur l'USAM, hein, qui était absolument superbe. Après, il y a eu ce déplacement à Nancy, cette belle victoire 32-24 qui assurait la deuxième place aux Nantais. Le dernier match de championnat, une démonstration contre Toulouse 32-18 qui permettait au public nombreux de saluer tous les futurs départs des joueurs nantais, il y en aura 6, et entraîneurs compris. Et puis samedi, c'était le grand rendez-vous, la Coupe de France.
Oui, finale, deuxième finale nationale pour le H cette année. Après son succès en Coupe de la Ligue, c'était la Coupe de France et l'ogre parisien. Et on se dit que sur un match, tout est possible. Malheureusement, cette année, face à Paris, rien n'était possible. Paris, trop fort, 18-13 à la mi-temps, 36-21 à la fin du match. Les Nantais ont jamais pu se mettre au niveau de leur adversaire.
Pourtant, exactement. Ça faisait un 5-5 au début du match.
Ouais, après, au bout d'un quart d'heure, il y avait quand même un plus 4. Ouais. Avec l'entrée de Mika Robin, les Nantais sont venus à moins 2. On s'est dit, ah, c'est peut-être bon, mais ça n'a pas suffi malgré... les 8 buts de Thibaut Briet.
Ouais, malheureusement.
Ouais, bah c'est un peu dommage parce que l'idée quand on va en finale, c'est de soulever un trophée. Ceci dit, évidemment, la saison du H est magnifique. On peut rappeler tout ce que les hommes d'Enterios ont réalisé cette saison. Hein. Deuxième du championnat, certes à 11 points de Paris, mais 5 points devant Aix, 8 devant Montpellier.
C'est ça.
Battu en Coupe d'Europe par le CS Magdebourg qui sera finaliste de la Ligue européenne.
Et qu'on retrouvera l'année prochaine donc dans cette Champions League, puisque cette deuxième place nous qualifie.
Exactement.
Pour cet événement.
Et puis rappelons que c'était quand même l'équipe qui a gagné le global, la meilleure équipe du monde. Hein, donc c'est pas ridicule de se faire éliminer en quart par cette équipe.
Titré donc en Coupe de la Ligue et finaliste en Coupe de France. Une des plus belles saisons du H, si ce n'est la plus belle.
Je pense.
Donc une belle page se tourne avec du coup maintenant éclair au revoir de Kirill Azarov, Emile Dinissen et.
Alors
et
exactement.
En fait, pléthore de stars, oui, qui nous quittent.
Hein. Ils sont 6 à partir, bien sûr, les gardiens. Emile Nielsen au Barça et on l'a appris récemment, Mika Robin à Saint-Raph. Du coup, il n'arrête pas sa carrière, tant mieux pour nous. On sait que l'entraîneur Alberto Entrerios part, lui, à Limoges. Et Dragan Bechmalbek, lui, part dans un énorme club, Veszprém, le club hongrois. Et puis, le roi Kirill a tiré sa révérence pour se consacrer à la sélection macédonienne du Nord.
C'est ça.
D'ailleurs, il a été l'hommage qui lui a été rendu par le public contre Toulouse était absolument magnifique, comme à tous les autres joueurs.
David Balaguer part au PSG
aussi
pour conclure une belle carrière.
C'est ça. Et du coup, maintenant la question...
Et du coup, alors je peux vous annoncer les seuls trucs que je sais. Donc l'équipe qui va entraîner le HBC Nantes, donc c'est Greg Cojan comme entraîneur principal, Dimitri Florence qui était entraîneur des Espoirs, passe adjoint, Arnaud Siffert, tiens, le revoilà pour. Alors il était dans le club, hein, mais là il va s'occuper des gardiens sur le spécifique, hein, notamment du gardien islandais. Et puis Pierre Lemeur, lui, prendra la réserve. Voilà, les jeux de chaises musicales restent internes à Nantes. Et on a hâte de voir cette nouvelle équipe. On n'a pas encore tous les joueurs arrivant. On sait aussi qu'il y aura le retour de...
Jorge Maqueda.
Exactement. Et puis Valero Rivera a prolongé jusqu'en 2024.
Et
petit mot, justement, j'en profite des anciens... On est très heureux de vous annoncer que Guillaume Sorina a été nommé entraîneur principal à Ponton-Combo. C'est l'ex-club de Thierry Anty. Tu vois, il y a encore une histoire un petit peu à la nantaise. Et ça sera parfait. Et on lui souhaite bonne chance à Ponton-Combo qui cherchera à monter.
C'est ça.
Je voulais vous donner le résultat aussi de Coupe de France féminine avec la victoire de Metz 33-23, c'était quelques heures avant.
Doublé hein, pour les Messines.
Doublé pour les Messines, c'est leur septième doublé, leur dixième Coupe de France. Donc, saison absolument magnifique pour les médecines qui avaient été éliminées du Final Four en quart finale par Győr, qui lui-même...
En demi.
C'est Brest qui avait été éliminé en quart par Győr en demi. Et à la finale, Győr qui a été battu en finale par les Vipers de Kristianstad 33-31, donc qui gardent leur couronne.
Ouais, c'est ça, le doublé pour Kristiansand qui avait déjà gagné l'année dernière face à Brest. Hein, on le rappelle.
Exactement. C'est...
Cette finale.
Alors que la Ligue des Champions masculine, c'est ce week-end.
Exactement, c'est ça aussi que je voulais dire.
Sans club français, hélas, encore cette année.
On n'oublie pas Veszprém Kielce. À 15h15 le samedi, à 18h, on a le droit à un merveilleux Kiel FC Barcelone.
Mais on souhaitera énormément, un gros coup de chance. Enfin, on lui souhaitait de l'emporter à l'ancien Nantais, Nicolas Tournat.
Joueur de Kielce.
Allez, on passe au Sport Mecca. On va parler de ce Grand Prix de F1 d'Azerbaïdjan sur Nitro.
Alejandro, is there any damage? Is there any possible damage?
Voilà, Jonathan Zarco profite pour passer. André Gagnonnet reprendre la deuxième place. Il était malin.
Nitro, c'est toute l'actualité de sport mécanique tous les lundis soirs à 19h dans Money Time.
Pas de moto cette semaine, mais de la Formule 1.
Et oui, on était au Grand Prix de Bakou, anciennement Grand Prix d'Europe. C'était pour la sixième fois depuis 2016 qu'on venait en Azerbaïdjan.
Un circuit en ville.
Circuit aussi en ville, mythique par son passage dans le château, hein, ce fameux un peu zigzag dans le château. C'est un très beau circuit en ville, avec cette fameuse très très longue ligne droite hein, qui là fait du bien à certains pour les équipes plutôt très bon moteur comme Red Bull. Et voilà, on a eu le droit à un très bon Grand Prix et dès les qualifications, un très gros duel surtout entre les deux écuries qui sont à l'heure actuelle les plus performantes que sont Red Bull et Ferrari. Et Charles Leclerc a réussi à empocher sa sixième pole position de la saison, quatrième d'affilée. Malheureusement, pour lui, ça s'est mal passé le week-end d'après. Red Bull était juste derrière sur la grille, quatrième Carlos Sainz. Donc on a le droit, encore une fois, encore les quatre sont devant. Et malheureusement pour les pilotes Ferrari, la course s'est très très mal passée. À ce début de course, Carlos Sainz abandonne et les freins arrière qui ont lâché, problème hydraulique. Donc troisième abandon pour Carlos Sainz cette saison. Ça commence à faire beaucoup. Il commence à vraiment être distancé au classement des pilotes. Sainz, ça craint pour l'instant, même s'il a été prolongé finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Donc va falloir se remettre vraiment les bouchées doubles pour Carlos Sainz. Du côté de Charles Leclerc, malheureusement, nouvel abandon après Barcelone. Cette fois, c'est le moteur avec du coup un problème moteur. Alors qu'il était en tête à ce moment-là du Grand Prix. Gros coup dur pour Ferrari, double abandon. Ça laisse les Red Bull s'envoler pour la course avec un magnifique doublé. Victoire de Max Verstappen devant Sergio Perez. Et derrière, forcément, un très bon George Russell qui complète ce podium, le pilote.
La régularité, c'est ce qui risque de manquer cette année à Ferrari. Barcelone, c'était le théâtre des rêves de Ferrari la semaine dernière. C'était aussi celui de Fabio Quartararo hein, qui a remporté ce Grand Prix haut la main. Là, oui. On était en MotoGP avec un dénouement exceptionnel. Si on peut revenir là-dessus.
Il n'y avait pas effectivement parce qu'il n'y avait pas d'émission la semaine dernière, donc on va vous en parler un petit peu. C'est avec Fabio Quartararo qui encore une fois a montré tout son talent. Il ne partait pas pourtant, il partait troisième sur la grille de départ, mais il a réussi un départ fantastique. Premier virage, il passe devant Aleix Espargaro. Derrière, personne ne le revoit. Voilà, il part comme une fusée. Sa Yamaha a décomplexé, il a trouvé les bons réglages.
Beaucoup de favoris au tapis hein, ouais. Sur cette course.
Notamment dès le premier virage, on a le droit à Nakagami, Peiko Bagnaia et Alex Rins, je crois qu'il part au tapis. Puis dans la course, il y en aura d'autres.
Bastianini
notamment, hein, qui fait partie des
favoris au général. Hein.
Exactement. Et résultat, on a le droit finalement à 12 secondes d'avance pour Fabio Quartararo.
Sur un groupe de 3 pilotes hein, emmenés par Alex Espargaro à un tour de la fin.
Exactement, à un tour de la fin. Et pourquoi à un tour de la fin? Et parce qu'il a cru que c'était la fin finalement, un tour trop tôt. Résultat, il se relève, personne ne comprend. grand, on dit qu'on est mécanique, il célèbre, coucou tout le monde, je suis sur le podium, je suis content. Sauf que non, il restait un tour, résultat, il finit quand même cinquième, hein, il arrive quand même à sauver les meubles.
Il repart derrière Luca Martini, Luca Marini, il arrive quand même à le doubler.
Oui, il arrive quand même à le redoubler rapidement.
Parce sur que, sa bon, Ducati, ouais.
Sur la Ducati donc de Marini, mais avec la Aprilia qui est très performante, donc ça il arrive à le passer, mais quand même 5ème place, du coup ça fait quand même un gros trou au classement entre Fabio Quartararo et Aleix Espargaró, qui du coup s'envole un petit peu au classement finalement au classement pilote, alors qu'on se disait que finalement il Alaima était vraiment pas la moins bonne moto, mais une des motos les moins performantes, surtout par rapport au Ducati. Bah finalement Quartararo est largement en tête,
et Quartararo donc a re-signé chez Yam, on l'a appris cette semaine,
jusqu'en 2024, c'est ça, il a prolongé de 2 ans. Je pense que c'est très réfléchi, il a pris son temps, hein, on l'a vu, il a pas fait avant la saison, il attendait de voir ce que ça allait donner. Pour l'instant, la Yamaha surtout manque, bah en fait c'est juste moteur qu'elle manque. Si je pense qu'on lui a donné les garanties pour avoir un moteur plus performant, pour gagner ses finances 10 km/h en moins qu'il a par rapport à la Ducati, s'ils arrivent à trouver ça, là il fallait Quartararo, ça encore moins prenable, et là ça va devenir l'hégémonie Quartararo.
Et puis difficile pour lui d'aller dans une écurie Ducati avec toute la concurrence italienne.
Oui, puis on sait que
en termes de pilote,
hein, il préfère les motos qui freinent tard, qui sont assez maniables, qui ont une bonne usure des pneus. La Ducati,
que des dragsters, c'est moins le
cas. Oui. Ducati, c'est vraiment la vitesse, et forcément ça avantage plus Fabio Quartararo sur une Yamaha plutôt que sur une Ducati.
Et en parlant de Ducati, c'est Miller qui va s'engager en KTM pour la prochaine saison de Grand Prix.
Oui, c'est ça. Jack Miller qui est en fin de contrat va se faire ultérieurement virer, hein, va prolonger, hein, malheureusement, des mauvaises performances aux côtés de Bagnaia. C'est la relève, c'est Bagnaia et Sebastianini notamment, ou encore Jorge Martin. Ça se jouera surtout entre les deux pour le baquet officiel Ducati. Jack Miller qui passe chez KTM, Miguel Oliveira qui du coup devrait lui redescendre chez Tech 3, le team français de Hervé Poncharal, mais avec un meilleur salaire, hein. Il voulait quand même le conserver, mais il voulait pas le garder chez la team d'usine. Donc voilà.
Ça court, hein, ce week-end, je crois qu'on est à Essen.
On est à Essen, exactement, en Allemagne, ce week-end, comme du coup la Formule 1, qui eux se dépasseront à Montréal, au Canada. Au Canada de Martin Lacroix, qu'on salue évidemment. Et pour l'instant, ça court encore une fois 2 semaines d'affilée en Formule 1. Juste pour donner le classement pilote Formule 1, on a Max Verstappen qui s'envole à 150 points avec 21 points d'avance sur Sergio Perez. Et maintenant, 34 sur Charles Leclerc, ça commence à faire beaucoup. La saison est longue, hein. On sait très bien qu'après les 3 premiers Grand Prix, Leclerc avait déjà 2 victoires. Donc on se disait qu'à ce moment-là, que c'est finalement Charles Leclerc allait s'envoler. Pour l'instant, rien de tout ça. Donc il reste encore beaucoup de Grand Prix. Attendons de voir ce que ça va donner. Il reste encore au moins pratiquement une bonne dizaine de Grand Prix. Tout peut changer.
Ça peut aller vite. Ouais.
Ça peut aller très très vite. Hein. 2 victoires de Charles Leclerc, un abandon, puis une 3ème place. Imaginons, Leclerc reviendrait sur Verstappen. Donc ça peut aller très très vite. Mais au classement de constructeurs que là ça se complique pour Ferrari. Pratiquement 80 points de retard pour Ferrari. C'est énorme. Ça par contre.
Ouais, dénouement fin novembre. Il y a le temps. Il peut se passer des choses. Voilà. Les bagnoles vont performer ou pas.
Et bravo à Pierre Gasly qui a fait une belle course aussi. 6ème.
Allez, on parle des 24 heures du mois avec toi, Jean-Marc.
Dernière chose avant. Possiblement un nouveau Grand Prix en Afrique du Sud à partir de l'année prochaine. Ça peut être intéressant à voir.
C'était en 80 ou 82 les derniers.
Kialami, non, il y en a eu un entre temps, je sais plus, vers les années 2000.
Souvenir d'enfance, les Grands Prix.
Ça avait eu lieu qu'une fois.
Sud, dans la savane.
Voilà. Et bien, parlons de la 90e édition des 24 heures du Mans, une édition un peu spéciale, avec une nouvelle fois la victoire de Toyota, la Toyota de Sébastien Buemi, Brandon Hartley et Ryo Hirakawa, devant l'autre Toyota, donc celle-là c'était la 8, devant la 7 de Conway Kobayashi et de l'Argentin Lopez. 3ème place et première absolument énorme. C'est la Glickenhaus de Briscoe, du français Mailleux et de Westbrook qui prend la 3ème place sur le podium. C'est vraiment énorme comme perf. Hein. Jim Glickenhaus, le patron de cette écurie, producteur de cinéma de son état, ce personnage absolument atypique avec son chapeau de cow-boy. C'est sa première et son premier podium au Mans. Et on a hâte de le revoir la saison prochaine. À noter que le record de l'épreuve a été battu puisque la Toyota numéro 8 donc a parcouru 380 tours, soit 5177 km et 88,88. En LMP2, c'est la Jota de Félix Da Costa, Roberto Gonzalez et Will Stevens qui l'emporte. en GTE Pro, c'est la Porsche de John Maria Bruni et de Leek et de du français Makowiecki qui l'emporte, et en GT AM c'est Aston Martin qui l'emporte du team TFT. À noter qu'il y aura beaucoup de changements la saison prochaine, hein. On revoit tout puisque c'est l'arrivée des hypercars avec non seulement il y aura Toyota et Glykonos, mais il y aura surtout l'arrivée de Cadillac, Porsche, Peugeot et Ferrari. Et on annonce que Lamborghini, ça sera pour la saison suivante. Tout comme Alpine va faire une pause. Hein. Alpine qui était, qui a pas fait une grosse perf, puisque la balance de poids, la balance de performance, pardon, ne l'a pas avantagée. Mais ils ont promis de revenir en 2024. Hein. L'année prochaine, c'est les 100 ans des 24 heures du Mans. L'édition va être absolument extraordinaire. On va essayer de tous aller comme envoyés spéciaux là-bas, parce que ça devrait être absolument génial.
Ou au moins, on peut aller au camping, on entendra les bagnoles.
Ah oui, ça c'est clair. Mais voilà, si on peut rentrer sur le circuit même la nuit... Je t'assure que ça vaut le coup.
Ouais.
Même et on regarde. Hein,
et même pour une petite heure ou une petite demi-heure, moi.
Ah oui, oui, bah non, mais en général, tu y vas, tu restes 16 heures sur le circuit, tu reviens, t'es complètement
dors,
sourd.
Tu crampes.
Et t'as besoin de dormir après. Non, et puis à noter, du coup, les GTE Pro, elles disparaissent aussi. Hein, il restera les GTAM, toutes les catégories sont un peu revues, ça va grand bouleversement. Et on attendra 2025 pour la voiture à propulsion à l'hydrogène.
Sébastien Ogier était dans...
Une première, c'était une première pour lui.
Dans
avec
la course.
Avec Charles Michesi, qui était le pilote leader. Et puis, une jeune Française dont je n'ai plus le nom.
Non, ils n'ont pas brillé. Hein.
Non, bah, ils ont fait une perf milieu de tableau, mais c'est pas si mal. Quoi.
Ok, bon, allez, on a... On en a fini. Ouais, Jérém.
Dernière info, je viens de retrouver la trace du dernier Grand Prix d'Afrique du Sud. C'était en 93 la course avait été gagnée par Alain Prost.
Pour ton info, ils finissent quand même 13e pour une première participation. Donc Charles Michesi, Lila Wadou, c'est le nom de la demoiselle, et Sébastien Ogier. Et il a dit qu'il reviendrait, monsieur Ogier, en espérant qu'il revienne sur une Toyota officielle la saison prochaine.
Et là, ça va faire plaisir.
Allez, c'est noté. On parle de cyclisme, du Dauphiné libéré dans Chasse-Patate.
Chasse-Patate. Les grands tours, les grandes classiques et toutes les infos de la saison cycliste. C'est aussi dans Money Time.
Et à moins de 3 semaines du départ du Tour, les favoris du peloton étaient sur les routes d'Isère pour le Dauphiné libéré classique, course d'une semaine en préparation de la Grande Boucle.
C'est ça, voilà, la grande course préparative au fameux Tour de France, hein, qui lance ce fameux mois de juillet pur cycliste. Et on a eu le droit finalement à une première victoire pour Primoz Roglic, enfin sur ce critérium du Dauphiné au classement général. On se souvient, l'année dernière, il avait eu cette fameuse chute et qu'il l'avait retardé sur la dernière étape et qui du coup l'avait empêché d'obtenir ce maillot jaune. Mais cette fois, il l'a largement gagné assez aisément dans les étapes de montagne du week-end. Il a su facilement s'imposer juste devant son coéquipier Jonas Vingegaard et Ben O'Connor. Hein, Vingegaard finit à 40 secondes tant que Ben O'Connor finit lui à 1:41. Hein. Damiano Caruso et Jack Egg de la Bahrain Victorious complètent le classement général à 2 minutes 33 et 3 minutes 13. Donc vraiment là une totale facilité et victoire nette et sans bavure de la Jumbo Visma. Pour l'instant c'est une bonne préparation. On sait que forcément son plus grand rival ça va être son coéquipier slovène Tadej Pogacar de l'UAE Team Emirates qu'on attend sur le Tour de France. C'est ce gros duel qui s'annonce. On a vu quand même Vingegaard assez
aligné
intéressant
sur le Tour de Suisse, Pogacar cette semaine.
Non plus, c'est leader cette Marc Hirschi. Donc on l'attend surtout, le retour de Pogacar ça va être sur le Tour de France, double vainqueur, donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas c'est sûr que là il va y avoir un gros duel pour Primoz Roglic qui sera parmi, c'est sûr, les favoris. Et là, c'est sûr, s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de soucis, il pourra essayer de titiller Pogacar. C'est sûr que sur ce critérium du Dauphiné, il n'y avait pas des grands favoris, il n'y avait pas Felipe Martinez qui lui se trouve sur le Tour de Suisse. Mais c'est sûr que pour l'instant, c'est une belle démonstration de force de la Jumbo-Visma. Nous, côté français, on a eu le droit de 3 belles victoires, avec notamment celle de Alexis Vuillermoz à Brive-Charensac, qui lui permettait à ce moment-là de prendre le maillot jaune. Il le perdra le lendemain à Chastres-Sancy, là où
ouais, il règle le s'imposer. Il règle le sprint de l'échappée hein, ouais. Avant le retour du peloton à moins de 10 secondes.
Exactement, donc c'est une belle truc pour Alexis Villermoz. Et David Godu, il s'est imposé face aux favoris, notamment le Wout van Aert qui lève trop tôt les bras. Il nous a fini à la Philippe, hein, comme on dit, dans le milieu. Et David Godu qui a pu aller s'imposer. Une belle victoire pour David Godu en préparation forcément de ce Tour de France. Lui qui a fini assez loin.
17ème à 9 minutes, un peu décevant.
Ouais, très décevant hein, pour le.
Il jouera sans doute le maillot à poids cet été sur le Tour.
On attend de voir si jamais il arrive. C'est le Tour de France, c'est quand même dans 3 semaines. Si jamais il arrive à se remettre bien en forme pour le Tour de France, pourquoi pas. Peut-être que son pic de forme sera pour le Tour de France. Et à ce moment-là, il arrivera peut-être à faire un top 10, un top 5, pourquoi pas, au maximum.
Plus ça serait du rêve.
Ça serait de la circonstance de course.
De lui, mais oui, une victoire de prestige dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Et puis pourquoi pas le maillot à pois rouge.
C'est ça. Et puis la troisième victoire française, il s'agit de Valentin Ferron, 23 ans, le jeune coureur de la Team Energy. Donc c'est une belle victoire pour lui. Il s'impose à Gap. 3 victoires sur le critérium du Dauphiné pour des Français. Ça n'arrive pas souvent, donc on peut se féliciter. Aujourd'hui et hier commençait le Tour de Suisse, autre épreuve World Tour en prévision aussi du Tour de France. Et pour l'instant, c'est ceux qui dominent effectivement ce tour de Suisse. C'est la Bahreïn Victorious avec la première victoire pour Stephen Williams du coup de son nom qui s'est imposé sur la première étape devant tous les favoris, devant ce groupe de favoris. On a le droit à tous les Charman, Felipe Martinez, notamment Remco Evenepoel, Jakob Fuglsang ou encore Stephen Kung. Résultat, il s'impose, il prend le maillot de leader, maillot jaune à la fin de la première étape. Deuxième étape, c'était aujourd'hui, et ça ce sont les échappés qui sont imposés. Du moins un échappé, c'est Laknesund, le Norvégien de la team DSN, la team de Romain Bardet, qui du coup, lui s'est imposé. Il ne prend pas le maillot jaune pour quelques secondes.
7 exactement.
Pour 7 secondes exactement, il s'est quand même imposé en solitaire. L'image marrante de la journée, c'est vraiment Alberto Bettiol qui règle le sprint du peloton devant Pasqualone, mais il pense avoir gagné, donc lève les bras, se congratule avec son coéquipier italien Matteo Trentin de l'UAE Team Emirates. Mais malheureusement, il y avait quelqu'un devant. Donc pas de victoire pour Alberto Bettiol, mais au moins un retour en forme, ça c'est certain. Donc on verra. Troisième étape, ça sera demain, une étape plutôt vallonnée, profitable pourquoi pas une échappée, mais en tout cas c'est sûr que là ça va pas être une grosse bataille pour les favoris. Demain on attend les étapes de montagne.
Ouais, on rappelle cette année le Tour ça partira de Copenhague.
Exactement.
Bon, pour l'instant, pas d'autres infos vélo. On va passer à tout le reste de l'actualité sportive dans Multizone.
Money time. Multizone, tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on va commencer la rubrique Multizone avec du rugby. La semaine dernière, c'était la fin de la saison régulière. Les finalistes de la Challenge Cup, Toulon et Lyon, ne verront pas les barrages, hein, puisqu'ils ont été malheureusement éliminés. C'est Toulouse, Bordeaux-Bègles et La Rochelle et le Racing qui disputaient donc ces deux matchs pour aller en demi.
Exactement, voilà, sur cette dernière journée, on a eu le droit finalement à la victoire du Racing sur Toulon et la victoire notamment aussi de Castres sur Pau qui, eux, leur permettaient de prendre la tête du championnat devant Montpellier qui, eux, ont perdu face à Clermont. Donc voilà, et le Loup qui avait perdu face à La Rochelle, résultat, ni de Toulon, ni de La Rochelle, ni de Lyon en barrage. Et pour les barrages, on a eu le droit à deux beaux matchs sur cette journée-là entre Toulouse et La Rochelle. Toulouse qui du coup s'est imposé chez eux face à La Rochelle.
Toulouse taille patron. Hein.
Taille patron. Hein,
avec un Antoine Dupont la baguette, incroyable encore une fois.
Antoine Dupont qui a réalisé monts et merveilles sur ce match-là, qui nous a ébloui de son talent jusqu'à la 69e minute de jeu et même jusqu'à la 79e plus exactement avant l'essai de Bourgarit et puis de Favre à la 80e. Il menait quand même 33-14. Bon, à ce moment-là, on se doutait bien que ça allait être cuit bouilli pour La Rochelle. Ils ont notamment été dominateurs dans tous les compartiments de jeu. Movaca qui fait encore des merveilles en termes de technicité, de vivacité pour un talonneur. C'est vraiment impressionnant. Thomas Ramos qui lui met ses pénalités, les transformations. Donc là-dessus, aucun souci à se faire. La Rochelle donc a pu se contenter pour revenir un peu en fin de match avec Bourgarit et Favre, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Défaite 33-28, La Rochelle s'arrête là. Eux qui venaient d'être titrés finalement en Coupe d'Europe face au Leinster, malheureusement
ouais, ils ne feront pas
le doublé comme Toulouse.
Ils n'auront pas beaucoup de regrets au vu de la saison trophée qu'ils ont soulevé.
Ça c'est sûr.
L'autre demi.
Exactement, c'était entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Racing Métro 92. Et là, pareil, hein, le Bordeaux-Bègles a su montrer sa domination et ont été largement dominateurs. Maxime Lecu, Romain Bureau, Cameron Vauqui ont été vraiment au-dessus, notamment victoire 36-16. Noan Le Garec n'a pas suffi, ni Maxime Macheneau, pour essayer de survivre face à Bordeaux chez eux. Du coup, on retrouvera les Bordelais en finale, enfin sur les demi-finales de ce top 14. Castres ira du coup recevra le Stade Toulousain et Montpellier recevra l'Union Bordeaux-Bègles. Ça va être en tout cas de belles affiches et très serrées. Avantage peut-être au Stade Toulousain pour face à Castres, même si Castres est un petit peu arrivé à la première place. On va pas dire par hasard, mais par un jeu collectif, sans d'exploits vraiment individuels, sans vraiment de gros leaders comme on pourrait le voir en Stade Toulousain. On a vraiment des joueurs très merveilleux, surtout que Toulouse a joué la Coupe d'Europe, plus tous les internationaux qui sont partis. Donc forcément, ça a été plus compliqué pour Toulouse d'être vraiment régulier, de chercher le top 2. Donc Castres est un petit peu arrivé là, pas par hasard, mais voilà, en étant quand même performant. Mais c'est sûr que Toulouse sera peut-être sans doute le favori face à Castres, même si Castres évidemment reçoit. Il n'a pas perdu face à Toulouse cette année, les avait battus à l'extérieur à domicile sur les matchs retour, sur le match aller il y avait eu match nul à Toulouse. Montpellier-Bordeaux, ça aussi ça va être un match assez serré entre les deux équipes. Donc pour l'instant on voit que finalement ce sont des demi-finales assez ouvertes et voyons voir qui arrivera à s'extirper de ces matchs là.
Attention à Castres, hein, c'est toujours l'équipe dont on se méfie jamais.
Mais c'est surtout des pièges hein, pour le Stade Toulousain, on sait bien.
Oui, Jean-Marc.
Oui, moi si on en a fini avec le top 14, pardon, je vais vous parler évidemment du Stade Nantais et de la Fédérale 2, puisque les Nantais ont battu Sarlat, l'autre favori à la course au bouclier de Fédérale 2, 33-12. Et c'est ce que m'avait dit Pierrick Beltest, le buteur nantais. Hein, c'était le gros match. Donc Nantes qui file vers le match avait lieu à Pons dans les Charentes. Et donc les Nantais retrouveront en demi-finale l'US Lille-Jourdain. Donc le match aura lieu dimanche. Vous pouvez même encore réserver des places dans le quart, n'hésitez pas. Et du coup Nantes de plus en plus favori pour aller chercher ce bouclier. On leur souhaite le meilleur.
Allez, tennis, un mot sur la 14e de Nadal. Rapidement, c'était la semaine dernière, on n'a pas pu le débriefer, mais ça s'est fait. Il repasse avec en tête dans le Détroit.
Il est toujours en tête.
Des Big 3 hein, avec 22 titres maintenant pour Rafa.
14e Roland Garros.
On a bien cru qu'il ne passerait pas le match face à Zverev, mais Zverev s'est blessé et.
Derrière, c'est la chance qu'il a eu.
Et derrière, il n'y avait pas d'adversaire en finale parce que le Norvégien Casper Ruud n'était pas au niveau d'une finale.
Non, mais voilà, on a eu. Enfin, les gros matchs effectivement, pour Nadal ont été ces fameux quarts de finale ce huitième de finale face à Félix Auger-Aliassime en 5-7 où il a réussi à s'extirper d'un match de plus de 4 heures, donc c'était très compliqué. On s'est dit à ce moment-là que ça allait être très compliqué pour après survivre à un Novak Djokovic qui revenait au top de sa forme, qu'on voyait par rapport aussi l'année dernière où il avait battu assez facilement 4-7. Surtout après ce match en plus de 4 heures face à Félix Auger-Aliassime, que ça allait être compliqué pour lui en quart de finale face à Djokovic. Finalement, que nenni. Pourtant, c'est en natation aussi. On sait que la natation, ça aide moins Nadal parce que sa balle gicle moins, absorbe beaucoup plus la terre battue et donc forcément prend moins de vitesse et moins de rebond. Mais là, à ce moment-là, finalement, il a réussi un match parfait en 4-7 aussi. Il a montré finalement toute sa puissance. Il a fait un match, je pense que c'est son meilleur match du tournoi face à Novak Djokovic, où il a mis l'intensité qu'il fallait, la pression qu'il fallait, l'attaque, l'offensivité. Il a plus cette faculté à aussi bien défendre qu'il l'avait avant. Il est plus aussi physique, il a son problème au pied qui le gêne évidemment. Donc Résultat, il se devait d'être plus offensif. Et il l'a été. Résultat, une belle victoire en 4-7. Djokovic a manqué surtout de beaucoup de régularité. Il a eu des passages à vide assez incroyables, notamment sur le premier set et sur le troisième. C'est ce qu'il a manqué sur le septième, sur le quatrième set. Ben là, ça s'est joué au tie-break, c'était un peu plus serré.
Mais c'est en demi qu'il pouvait tomber.
Mais c'est en demi qu'il pouvait tomber.
Là où il était en danger.
Zverev qui faisait tomber à ce moment-là en quart de finale Carlos Alcaraz, un des grands favoris finalement de ce tournoi. Et Zverev nous a montré une magnifique match, notamment face à
mais il n'a jamais su conclure les grands moments, les moments forts.
Zverev, malheureusement, sur le premier set face à Nadal, a eu l'occasion, il menait 5-3. Il avait
sur le deuxième aussi
Il menait 5-3. Il servait effectivement. Pour les deux, il a servi finalement pour le set. À chaque fois, il a craqué. C'est le suggestion peut-être de la pression, de se dire qu'on est en train de mener face à Nadal, qu'on fait un excellent match, qu'on fait peut-être le meilleur match de sa carrière sur terre battue, et que là malheureusement on tombe sur un monstre d'expérience face à des conditions qui étaient vraiment très très humides et qui vraiment gênaient beaucoup Nadal, on l'a bien vu. Il y a eu ce petit coup du sort finalement où
tie-break du deuxième, cette blessure.
Bah, sur ce dernier jeu à 6-5, là, sur la balle de jeu finalement de Nadal où du coup Zverev la met dans le couloir, et à ce moment-là sur ce fameux coup droit il glisse et il se tord la cheville complètement, hein. C'est vraiment un coup dur, et à ce moment-là il revient sur le terrain en béquille, donc à ce moment-là on comprend bien que c'est fini pour Alexander Zverev. C'est vraiment dommage pour lui parce que il mérite son grand chelem. Quand est-ce qu'il l'aura, on ne sait pas, mais tout ce qu'on sait,
il
c'est qu'il
en aura. Il avait perdu déjà contre Dominic Thiem, hein, Dominic en Thiem finale en 2020 de l'US Open.
Exactement.
Effectivement, on risque de revoir ce joueur, puisqu'il a vraiment un énorme potentiel, et c'est un garçon charmant.
C'est un garçon charmant qui a été vraiment très fair play. On sait que parfois il a des petits coups de sang, on ne retiendra pas forcément ça, mais voilà, c'est un joueur très, très agréable. Il fait l'effort de revenir après sa blessure sur le terrain pour dire au revoir à l'arbitre, tout ça, pour saluer le public. Donc on sent que c'est vraiment quelqu'un qui est passionné par le tennis et qui est vraiment à un jeu très fair play finalement. Donc c'est beau de voir ça. On le reverra, et ça c'est certain, sans doute pas malheureusement pour le Wimbledon qui commence le 27 juin. Et à ce moment-là, forcément, il s'est blessé, il sera absent 6 à 8 semaines. Donc il a encore au moins 7 semaines de combat,
ouais, et bravo Rafa pour cette victoire.
Bravo Rafael Nadal. Et comme tu l'as dit, face à Casper Ruud, c'était très compliqué parce que Ruud malheureusement manque d'un très bon revers. Nadal joue souvent croisé, bombé croisé sur le revers de l'adversaire, et résultat Casper Ruud malheureusement n'a pas pu résister aux offensives de Nadal, qui en plus là les conditions étaient bien meilleures pour lui pour jouer dans cet après-midi là, ce moment là du dimanche. Et Nadal s'envole 22e titre du Grand Chelem, 14e titre à Roland Garros. C'est tout simplement incroyable. On peut parler littéralement sans doute du plus grand exploit dans l'histoire du sport, tout sport confondu, parce que faire ça c'est quand même incroyable. Il sera peut-être là sans doute à Wimbledon, Tony Nadal.
Ouais, ce que j'allais dire, la saison de gazon qui démarre, déjà des résultats, on était à Sertogenbosch et à Stuttgart.
Exactement, et on a eu le droit à la victoire de Matteo Berrettini en finale à Stuttgart face à Andy Murray, le revenant, hein, Andy Murray, hein, qu'on attend vraiment au niveau. On sait que l'herbe c'est son domaine. Qui plus est, à Wimbledon, c'est aussi son jardin. Donc voilà, victoire en 3-7, 6-4, 5-7, 6-3. Berrettini qui, lui, est très pas content du fait que Wimbledon n'accordera pas les points ATP. Ce qui fait qu'il va perdre beaucoup de points. Berrettini, lui, la mauvaise. Mais en tout cas, il revient bien, Matteo Berrettini, sur l'herbe. Du côté de Sertogenbosch, comme tu le disais, c'est Van Rijsselhoven, un wildcard, un Pays-Bas, un néerlandais qui s'est imposé face à Daniil Medvedev en 2-7, 6-4, 6-1. Ça a été une vraie rouste qu'on peut dire qui s'est pris en finale, Medvedev. Et il faut savoir que ce joueur néerlandais, Van Rijsselhoven, n'a jamais gagné de match ATP avant ce tournoi-là.
Là, c'était le régional de l'étape. Il a gagné chez lui face au numéro 2 mondial. Qui est favori pour la quinzaine sur gazon à Wimbledon ?
Djokovic. Ça, c'est sûr, c'est Djokovic. Là, on est sur un terrain qui le convient très très bien. Il a gagné quand même 9 fois Wimbledon. Non, il a gagné 6 fois Wimbledon. Ça sera le grandissime favori.
Face à lui ?
Face à lui,
on peut espérer un Tsitsipas.
Tsitsipas, c'est plus un joueur de terre battue.
Bien sûr, mais.
Berrettini, bien sûr, s'il revient très en forme, il a fait finale l'année dernière. On attend peut-être des Hubert Hurkacz qui sont mieux. On sait que Nadal, s'il le joue, forcément ça sera à fond. Et Nadal, il a déjà gagné quand même 2 fois, donc c'est un joueur d'expérience. Medvedev aussi, mais c'est sûr que c'est plus un joueur de dur. Donc ça, là il n'y a pas Federer non plus qui du coup lui est absent depuis un grand moment et qu'on revoit, on verra sans doute en novembre prochain.
Septembre, novembre.
Septembre, octobre, novembre prochain. Djokovic est l'ultra favori et pour l'instant je ne vois pas qui à l'heure actuelle pourra le battre si ce n'est dans un match.
Un Cilic peut-être, on a vu qu'il avait fait un bon tournoi hein, sur
oui,
terre
sûr.
Battue. Hein,
ça a jamais
il a plutôt un joueur de plutôt un jeu pour réussir sur gazon.
Oui bien sûr, c'est plutôt un joueur de dur que de gazon, mais c'est sûr qu'il sera potentiellement là. On l'a bien qu'il a très bien réalisé un très bon tournoi à Roland-Garros. Première demi-finale pour lui à Roland-Garros à son âge, lui qui revenait un petit peu de nulle part, hein, Cilic. Donc on verra bien, mais en tout cas c'est sûr, là sur le gazon, l'ultime favori ça sera Novak Djokovic.
Allez, un mot de golf sur le PGA Tour. On était au Canadian Open et une légende qui s'impose, Rory McIlroy.
Exactement, Rory McIlroy qui s'impose à seulement 4 jours de l'US Open, l'autre grand majeur qui s'annonce très intéressant à suivre. Du côté français, Paul Barjon lui finit à la 60e place.
Et il passe le cut, passe Paul. Le cut. Donc c'est on va attendre l'été pour voir s'il il sera aligné en FedEx Cup. Est-ce qu'on a d'autres infos?
Du coup, encore du golf, c'était le Scandinavian Mixed du coup, qui se jouait. C'est la victoire de Scrivener, le Néo-Zélande, l'Australien. Donc, c'est juste devant notamment Warren et Stenson. Donc, juste un petit mot comme ça, les Français Langasque et Pavon finissent 7e.
Un mot d'athlée avec une perf 3e meilleur chrono de l'histoire pour Devon Allen. Sur 110 mètres au meeting de New York, 12,84.
C'est très fort. Il se rapproche finalement du record du monde qui est Darius Merritt en 2008. C'était en Belgique, en 12,80.
Ouais.
Donc on verra bien
Memorial
ce que ça donne.
Vendamme, ouais.
Exactement. Donc on verra bien ce que ça donne. Lui qui avait dit qu'il irait peut-être en football américain. En NFL, on verra ce qui se donne, mais en tout cas, c'est sûr que là, c'est lui qui avait fini 4e des Jeux Olympiques, des derniers Jeux Olympiques. On verra ce que ça donne. En tout cas, c'est une très très belle performance sur ça pour Devon Allen. Nous, du côté français, on attend surtout le fameux Sacha Zoya.
Exactement. Bon, je crois qu'on a été complet cette semaine.
Alors, on se retrouve, je précise, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, le 27, pour la dernière de la saison, l'épisode 36. On fera un bilan des clubs nantais avec quelques journalistes de la presse régionale et puis tous les camarades aussi autour. Et on pourra vous donner les résultats du rugby du Stade Nantais. Est-ce qu'il gagnera ? Puisque la finale aura eu lieu la veille. Et puis on aura peut-être le dénouement pour le championnat du Nantes Métropole Futsal, hein, pour savoir s'il remporte le championnat ou s'il finit 3e.
Et ouais, les derniers résultats de la saison, c'est la semaine prochaine.
Non, dans 15 jours.
Dans 15 jours, pardon. Notez bien, dans 15 jours, avec nos chroniqueurs de Money Time. Voilà, on passe l'antenne à nos potes de Passage en Force pour parler NBA. Et on se dit à dans 15 jours. Ciao, ciao.
Salut tout le monde.
À dans 15 jours, bonne soirée.